RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Igor Strauss.
Bonjour, bienvenue, c'est notre nouveau rendez-vous. Tous les mercredis, des journalistes des différents services de RFI et d'autres médias engagés pour l'environnement se réunissent en club pour partager et débattre des sujets qui les ont marqués pendant la semaine. L'occasion également de découvrir des initiatives d'entrepreneurs à la fibre écolo et les vidéos tournées par les membres du réseau Hip-Hop, le réseau des petites ondes participatives. Au menu cette semaine et dans le désordre, les Jeux Olympiques de Paris seront-ils les plus écolos jamais organisés? Les émissions négatives ou comment retirer de l'atmosphère des millions de tonnes de CO2. Les ravages des conflits, non seulement la guerre tue, mais elle détruit aussi durablement l'environnement. L'Ukraine en est un triste exemple. Et enfin, feu vert des eurodéputés pour se retirer du traité sur la charge de l'énergie, jugé incompatible avec les ambitions climatiques de l'Union européenne. Voilà pour le programme. Bienvenue au club.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Audrey Garrigue, bonjour.
Bonjour Igor.
Vous êtes journaliste au Monde. Tout à l'heure, vous allez nous parler d'émissions négatives. Mais d'abord, c'est le gimmick de l'émission, votre étonnement de la semaine.
Alors mon étonnement, c'est le fait que le Portugal est en train d'avoir une révolution énergétique, de devenir un champion des énergies renouvelables en Europe. L'an dernier, en fait, les renouvelables ont représenté 61% de l'électricité consommée. C'est beaucoup plus que l'Union européenne, la moyenne, puisque c'était 44%. Et même en novembre 2023, le pays est arrivé à 100%. C'est essentiellement grâce à l'hydraulique, à l'éolien et au solaire. Et ils ont des objectifs...
Parce qu'ils n'ont pas de centrale nucléaire, les Portugais.
Non, voilà,
donc ils sont très tôt intéressés.
Voilà, et ils sont très peu raccordés comme l'Espagne au reste de l'Europe. Donc en fait, il y a un enjeu de souveraineté énergétique et donc ils ont tout misé sur le solaire sur les renouvelables de manière générale dès les années 90. Et maintenant, ils ont des objectifs qui sont très élevés, d'avoir 85% d'électricité consommée en 2030 et la moitié de leur énergie finale consommée aussi à partir de renouvelables. Et au-delà des chiffres, je trouvais que c'était assez intéressant de voir d'un point de vue politique que en fait tout ça, ça a été accéléré fortement par le gouvernement socialiste qui est au pouvoir avant celui actuel, mais que c'est toujours poursuivi par le gouvernement actuel de centre-droit. Et donc il y a une entente entre les partis politiques opposés sur la nécessité d'accélérer sur la transition écologique. Et à 2 mois des élections européennes, alors qu'on détricote largement le Green Deal, je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut y arriver et se mettre d'accord sur cette urgence climatique.
Il y a encore un peu d'espoir et le Portugal est un bon exemple à suivre. Xenia Zornoclay, oui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de la rédaction ukrainienne de RFI.
Oui.
Votre étonnement ?
Alors, mon étonnement, ce sont les pluies qui se sont abattues sur les Émirats Arabes Unis, sur Dubaï.
On a vu des images hallucinantes.
Oui, tout à fait. J'ai habité ce pays pendant plus de 10 ans. Je n'ai jamais vu ça. Donc, j'ai vu les pluies, mais ça, jamais de la vie. Et je sais que ça perturbait la vie normale. Les écoles fermées, l'aéroport de Dubaï inondé, les bâtiments résidentiels qui sont inondés, qui sont détruits pour certains. Certaines villes ont vu les voitures inondées complètement. C'est une grande question pour les assurances, pour les assureurs. Tant que je sache, en fait, toutes les victimes de cette pluie, cet orage, peuvent contacter la police pour avoir les certificats spéciaux. Et en fait, je pense que ça, c'était assez impressionnant. Non seulement étonnant, mais impressionnant.
Et puis, ça se répète, parce que moi, j'étais à Dubaï il y a à peine 2 mois, il y avait déjà eu des pluies torrentielles qui avaient tout inondé.
Après, il y a un facteur artificiel à certaines pluies, parce qu'en fait, il sème la pluie dans les nuages. C'est une technologie qui permet d'avoir un petit peu de pluie. Mais là, pour du coup, on pense que c'était quand même naturel, parce que ça s'est produit à Oman juste avant ça. Donc, on pense que c'est naturel, mais c'est quand même impressionnant.
Stéphanie Schuller, bonjour.
Bonjour, Igor.
Du service environnement, cher collègue. Quel est votre étonnement ?
Alors, moi, j'étais très étonnée cette semaine de l'état du réseau ferroviaire dans le sud-est de l'Europe. Et pourquoi? Parce que, alors je vais vous le dévoiler en avant-première. Je vais partir avec un pass Interrail. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce principe, c'est un pass qu'on achète à un prix fixe et qui nous permet une semaine ou deux semaines, dans mon cas c'est deux semaines, de parcourir l'Europe en train. Et donc on a décidé que je partais à travers les Balkans
pour notre beau service environnement, il faut le dire.
Exactement, et pour parler des enjeux environnementaux et climatiques en avant et en amont des élections européennes. Seulement voilà, je me suis rendu compte qu'il n'était pas facile du tout de parcourir les Balkans en train. On avait imaginé une route qui m'amènerait de Paris, Autriche, Slovénie, Croatie, de là traverser la Serbie tranquillement pour arriver en Bulgarie. Et ben non, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de train entre la Croatie et la Bulgarie. Il faut donc faire un énorme détour par la Hongrie et la Roumanie pour arriver en Bulgarie. Les trains que je vais prendre en Croatie, paraît-il, ils roulent à 50 km/h en raison notamment d'un manque d'investissement. Donc ça m'a quand même étonnée puisqu'on est à l'ère quand même de l'urgence climatique. Évidemment, le voyage en train est une façon douce de voyager. Et depuis plusieurs années, l'Union européenne tente de promouvoir ce qu'elle appelle l'espace ferroviaire unique européen. Et bien, je peux d'ores et déjà vous dire, je crois qu'il y a encore du chemin à faire.
Effectivement.
Donc je vais partir à l'aventure, ça va être rigolo.
Et puis vous nous ferez plein de beaux reportages.
Tout à fait.
Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef adjointe, évidemment, du service environnement. Votre étonnement, Pauline ?
Eh bien, c'est le recours déposé par des associations de protection de l'environnement contre la réintroduction de grands tétras dans le massif des Vosges. Alors, les grands tétras, ce sont des oiseaux de montagne, des espèces de grands coqs noirs.
De bruyère, on dit.
Voilà, exactement. Et donc, à prime abord, on peut se dire que c'est un peu contre-intuitif que des associations de protection de l'environnement s'opposent à cette réintroduction. Mais en fait, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, on n'est pas sûr à 100%, mais cet oiseau a sans doute disparu des Vosges. En tout cas, cette année, il n'y a pas eu de traces de vie découvertes de cet animal. Et ces conditions, s'il a disparu, c'est parce que les conditions de son territoire se sont dégradées. Il y a toujours des routes parfois très fréquentées, notamment certains week-ends de beau temps. Il y a l'activité touristique, des activités de raquettes, des infrastructures de tourisme et de loisirs. Notamment, et c'est sans compter le réchauffement climatique, parce que c'est un oiseau qui aime quand même les conditions un peu froides pour survivre l'hiver, pour garder son énergie. Il se met dans des trous de neige pour éviter justement de dépenser trop d'énergie. Quand il est dérangé par les randonneurs, il doit en sortir.
Et là, c'est pas sûr qu'il trouve ces conditions climatiques, justement.
Et bien non. Et comme il vit déjà dans les hauteurs des Vosges...
Qui se réchauffe, bah forcément, il ne va pas pouvoir monter.
Il ne va pas pouvoir remonter. Et d'ailleurs, les grands tétras qui seront réintroduits, ils seront prélevés en Norvège. Donc c'est vrai que les espèces ont plutôt tendance à remonter avec le réchauffement climatique. Et donc là, on va prendre des espèces, enfin, des animaux du Nord pour les ramener un peu plus au Sud. Donc voilà pourquoi ce recours a été déposé. Donc là, c'est un exemple local, mais ça pose la question de la réintroduction et de la condition de réintroduction des animaux.
C'est tout pour les étonnements. On va passer au menu principal maintenant.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Audrey Garic, la planète est en surchauffe. Nous avons encore battu des records de température un peu partout dans le monde. Bangkok aujourd'hui, on parlait de l'Afrique australe il n'y a pas si longtemps. Les États doivent donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est une évidence. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les émissions négatives, c'est-à-dire aller pomper le gaz à effet de serre, le CO2, dans l'atmosphère. Expliquez-nous.
C'est ça, c'est une forme d'oxymore, je trouve, qui dit bien la situation extrême à laquelle on est désormais acculé, parce que depuis la révolution industrielle, on a brûlé énormément d'énergie fossile, donc du charbon, du pétrole et du gaz. Donc on a émis, ce que vous dites, énormément de gaz à effet de serre et on a provoqué ce réchauffement climatique, 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle, avec le cortège d'événements extrêmes que vous mentionniez, voilà, les canicules, mais aussi les sécheresses, les inondations, les incendies, etc. etc. Et donc maintenant, ça ne suffit pas de réduire les émissions drastiquement comme nous dit de le faire le GIEC. Il faut aussi donc enlever ce CO2 qui était déjà là, qu'on a déjà émis. Et c'est ça qu'on appelle, c'est les scientifiques qui appellent ça émission négative. Mais sinon, le terme, c'est élimination dioxyde de carbone, ou en anglais, si vous voulez frimer un petit peu, CDR, carbon dioxide removal.
Je l'avais noté, mais je ne voulais pas le faire en anglais.
Et donc l'idée, c'est de... C'est différent du... je peux entrer dans un peu plus, des choses un peu techniques. C'est différent du captage-stockage du CO2, dont on parle beaucoup plus, qui là sont des technologies plus connues, où on va, en fait, quand on a par exemple une raffinerie ou une cimenterie qui va émettre du CO2, là, tout de suite, on empêche le CO2 de partir dans l'atmosphère, on le récupère tout de suite.
On le capte et on le met dans le sol.
Mais ça, c'est des émissions évitées. C'est pas des émissions éliminées qui, là, s'attaquent bien au stock d'émissions historiques. Donc, c'est pour ça qu'maintenant, il va falloir faire les deux, en fait. L'élimination du CO2 et les émissions évitées, et réduire les émissions naturellement.
Alors, il y a des techniques qui marchent, qui ont fait leurs preuves, et puis il y en a d'autres, on a encore certains doutes, c'est ça ?
C'est ça. En fait, c'est très, très large, en fait, les techniques d'élimination du dioxyde de carbone. Il y a celles qu'on connaît,
qui sont basiques, les plus naturelles. La forestation, des choses comme
voilà.
ça ou...
Voilà, la reforestation ou afforestation, c'est planter des arbres. Si c'est l'humain qui le fait, c'est considéré comme des émissions négatives. C'est aussi restaurer tous les puits de carbone naturels, donc les tourbières, les herbiers, les mangroves, les sols, etc. Et après, on a l'opposé du spectre, des techniques beaucoup plus technologiques, comme ce qu'on appelle les DACS. C'est la capture directe dans l'air. Là, c'est des immenses ventilateurs qui vont filtrer le CO2 et on le met dans le sous-sol. Ou alors, ce qu'on appelle aussi les BECS, la bioénergie avec captage et stockage du CO2. Donc là, l'idée, c'est de prendre des arbres, des végétaux plutôt, qui ont déjà capté le CO2 de l'air. On va les brûler pour produire de l'énergie. Et après, on va récupérer le CO2 avant qu'il ne soit émis. On va le stocker dans le sous-sol. Donc là, c'est aussi des énergies négatives. Et après, il y a plein d'autres choses.
Alors moi, j'en ai lu une que j'ai trouvée hallucinante, c'est l'ensemencement des océans.
Oui, alors là, c'est pour...
Pour enrichir le plancton.
Oui, c'est ça, et qui capte plus de CO2. Il y a aussi l'alcalinisation.
Mais est-ce que ça marche véritablement? Est-ce que ça fait ses preuves ou pas? Est-ce que c'est les prémices de nouvelles technologies, finalement?
Il y en a certaines qui marchent. En fait, on sait, en faisant des réactions chimiques, que ça fonctionne, ou la biominéralisation, etc. On sait à des petites échelles qu'effectivement, ça va capter du CO2. Après, ce qu'on n'est pas sûr de savoir faire, c'est à très grande échelle, parce qu'il y a la question de faisabilité technologique, et il y a la question de... durabilité
aussi.
De stockage, et du coup, qui est vraiment une très grosse question, parce que par exemple, le DAX, la capture directe dans l'air, c'est entre 400 et 700 euros la tonne de CO2, donc c'est colossal. Ou le BEX, la bioénergie, c'est entre 300 et 500 euros, donc on n'est pas du tout sûr qu'il y a un modèle économique, qu'il y ait des gens qui acceptent de payer pour capter le CO2.
Après, ça serait une question de volonté politique de réorienter les subventions dans ce secteur-là.
Voilà.
C'est ça qui va jouer, ça va être plutôt politique comme décision?
Je pense qu'à terme, ce sera ça, parce que pour l'instant, c'est le marché volontaire du carbone, c'est-à-dire que c'est des gens, des particuliers ou des entreprises qui veulent compenser leurs émissions, donc qui se disent qu'ils vont acheter des crédits de carbone, mais donc d'émissions éliminées. Mais à terme, il faudrait peut-être que ce soit politique, comme c'est déjà en train d'être le cas aux États-Unis, dans les pays du Nord, au Royaume-Uni, Allemagne, etc. Et l'Union européenne aussi s'interroge de plus en plus à soit faire des commandes publiques, soit des crédits d'impôt, soit des subventions, tout ce qui pourrait permettre de lancer ce marché. Mais après, il y a des gros... En fait, il y a un gros débat et c'est encore, il y a une grosse méfiance pour ces technologies, parce que d'un côté on a le GIEC qui, dans ses rapports, les présente désormais comme indispensables pour limiter ou avoir une chance en tout cas de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il nous dit qu'on sans ça on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone.
Exactement.
Voilà, et même c'est pour aller plus loin que la neutralité carbone, pardon, c'est pour aller vers le net négatif, donc ça veut dire retirer plus de CO2 de l'atmosphère qu'on en émet, et c'est ça qui permet donc s'attaquer au stock d'émissions historiques, et si on dépasse 1,5 degré, de pouvoir y revenir plus tard, ou alors limiter l'ampleur du déplacement. Donc voilà, on a les scientifiques qui sont assez clairs qu'il faudrait passer par là. Mais malgré tout, dans le même temps, les associations et ces mêmes scientifiques aussi ont plein de réticences, parce que ça coûte cher, mais surtout parce que ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup de terre, et donc ça entre en concurrence avec d'autres usages pour la production d'énergie, la production alimentaire, pour les agrocarburants. Et il y a surtout le gros risque, c'est vraiment, est-ce que que ça va retarder ou empêcher le vrai effort, quoi, la décarbonation des économies et le fait de réduire les émissions de CO2. Parce que si on se dit, génial, on a la solution miracle, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, on n'a qu'à retirer le CO2 de l'atmosphère. On laisse tomber tout le reste et donc ça pourrait ralentir les autres actions, la rénovation énergétique des bâtiments, l'électrification des usages, etc. ou le changement alimentaire. Donc tout le monde est un petit peu, on sent qu'il y a une méfiance.
Il y a peut-être des espoirs démesurés avec ces nouvelles technologies parce qu'on n'est pas complètement sûr du résultat.
C'est ça, ça paraît être un peu encore une solution miracle et à la fois il faudrait peut-être se lancer, c'est pour ça qu'il y a en tout cas en France, il y a une association qui vient de se lancer avec 30 startups qui ont lancé.
C'est l'AFEN, l'Association française pour les émissions négatives.
C'est ça, et donc ils veulent construire une filière industrielle en disant à force d'attendre, on va finir par être en retard. De toute façon, il faudrait faire, d'après eux, les deux en parallèle, à la fois la décarbonation des économies et développer la recherche et la filière sur les émissions négatives.
Merci Audrey Garrigue. On va faire une première petite pause en musique et puis on se retrouve juste après. Voici Nadik de Mokhtar et Liliane Schreim sur RFI. Nadik de Mokhtar et Liliane Schreim, des artistes de la playlist RFI que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes préférées.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, aujourd'hui c'est la version club de l'émission avec Audrey Garrigue du journal Le Monde, Xenia Zornoclet, Stéphanie Schuller et Pauline Glaise de RFI. Les émissions négatives, on y revient brièvement avec vous, Pauline Glaise, vous aviez des petits compléments d'information.
Oui, je voulais juste revenir sur ce que disait Audrey sur le fait que ça risquait aussi de retarder les efforts de réduction des émissions avec un exemple. Alors il ne s'agit pas là de technologie, mais le Guyana a récemment justifié l'exploitation de ces champs de gaz et de pétrole par le fait qu'ils ont recouvert de forêts amazoniennes et que, donc, selon eux, même s'ils exploitaient tous les champs qu'ils ont découverts chez eux, ce serait toujours compensé et largement par la forêt qui est protégée sur leur territoire. Donc après, ça pose aussi d'autres questions de droit au développement, de justice climatique. Mais c'est vrai qu'on peut entendre ce genre d'argument-là qui fait que bon, bah, on a de la forêt, donc pourquoi ne pas développer nos ressources pétrolières et gazières ?
Argument un peu facile, on peut le comprendre. Chaque semaine, nous mettons en avant un vidéaste amateur du réseau Hip-Hop pour Petites Ondes Participatives. C'est un réseau qui recueille des témoignages de citoyens partout sur le continent. Voici la chronique de Caroline Fillette.
Aujourd'hui, direction le Togo pour le film « Survie sur la côte », réalisé en 2023 par Messane Folipovi. Dans ce film, on suit Adjavan Ayele, une éleveuse de moutons qui vit à Agbodrafo, une commune littorale du Togo. Depuis une trentaine d'années, cette femme assiste impuissante à la montée des eaux. Elle nous montre les ravages sur son habitation, car les vagues inondent régulièrement sa maison. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage et nous retrouverons ensuite Raphaël Almar, directeur de recherche IRD, qui nous apportera son éclairage.
Je m'appelle Ajavon Ayele, j'ai 65 ans, j'habite ici depuis toujours. Je crois que la mère a décidé de nous faire du mal. Quand j'étais enfant, je me rappelle que la mère était loin. Il fallait marcher sur une longue distance à travers les cocoteraies pour l'atteindre. Malheureusement, en montant, la mère a commencé à menacer la communauté. Cela fait 30 ans que la mère détruit tout sur son passage. Dernièrement, ce sont la terrasse et deux pièces de ma maison que les vagues ont emportées. Heureusement, mes enfants étaient dans leur chambre. Maintenant, ils sont partis vivre ailleurs et depuis un moment, je vis seule ici. La mère a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Avant, quand les vagues entraient, l'eau du puits devenait salée, pas plus de 3 jours. Et du coup, ça allait. Mais maintenant, l'eau est salée en permanence. Mon puits est un puits d'eau de mer. Et ça, c'est le principal problème. Et ça me cause de la peine. À 65 ans, je dois encore transporter de l'eau. Et quand je tombe malade, je n'ai pas la force d'aller en chercher. Et là, je commence à me demander qui va m'aider pour m'en sortir. Car c'est une situation invivable. Des fois, je suis obligée de mélanger de l'eau salée avec de l'eau que je vais chercher ailleurs pour abreuver les animaux. Souvent, les gens sont surpris que je reste ici avec tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je vis de l'élevage de porcs et de moutons. Je ne peux pas partir avec les animaux. Mais par la grâce de Dieu, je fais face avec courage. C'est dur, mais je n'ai pas le choix. C'est pourquoi j'essaye de survivre en attendant des jours meilleurs.
Raphaël Almar, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur en dynamique littorale à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Qu'avez-vous ressenti en regardant ce film ?
Alors, ce film, il est assez caractéristique de ce qui se passe dans pas mal de côtes de par le monde, en fait, et en particulier en Afrique de l'Ouest, sur ces côtes sableuses.
Alors, sécheresse, canicule marine, inondation, on parle beaucoup du phénomène El Niño et de ses conséquences dans l'océan et dans les terres. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce phénomène et son impact sur le littoral et en Afrique de l'Ouest en particulier ?
Alors, El Niño, c'est un phénomène d'arabité climatique naturelle centré sur le Pacifique, en fait, le plus grand bassin du monde, et qui va réchauffer les eaux du Pacifique. Et en fait, en cascade, ça va impacter la planète, notamment via des connexions à distance. En fait, ça va impacter de l'Afrique, avec par exemple une modification des pluies, des moussons, à l'est, à l'ouest, et donc aussi le niveau d'eau et l'érosion et la submersion marine.
Mais vous pointez aussi le fait que El Niño n'est pas le seul responsable de l'érosion du littoral, vous parlez aussi de l'urbanisation.
Disons que El Niño, c'est quelque chose de naturel, une espèce de respiration naturelle de la planète. Et après, par-dessus, en fait, on a le développement humain, où on va construire, développer les zones côtières qui sont hyper attractives, en fait, économiquement, pour les pêches, pour le tourisme, la communication, les transports avec les ports. Et en fait, ce qu'on a trouvé dans certains travaux en Afrique de l'Ouest, c'est que, en fait, c'est d'abord ce développement local qui va impacter l'évolution de la côte. On va construire des ports en eau profonde qui vont bloquer le transit sédimentaire et qui va générer de l'érosion en aval.
Oui, alors quelles mesures pourraient être prises afin de réduire ces risques ?
Il n'y a pas de solution évidente. Et ça ne concerne pas que l'Afrique de l'Ouest, mais c'est dans le monde entier. Donc les solutions restent à être développées, à être trouvées. Ça dépend souvent du contexte. Par exemple, on ne va pas dire d'enlever les ports en eau profonde qui sont les poumons économiques de la plupart des pays du Golfe de Guinée. C'est des zones côtières où il y a un accroissement de la densité de population. Donc dans les zones très urbanisées ou à fort enjeu, on va essayer de protéger ces zones donc, avec des structures un peu dures. Après, on peut avoir des solutions un peu plus douces, où on va recharger les plages, etc. Voire des solutions plus long terme, en fait, où on va dire finalement le plus simple, c'est de reloger certaines populations plus à l'intérieur des terres. Ce qui a des effets de bord un peu compliqués avec l'attachement des populations à l'océan en particulier.
Merci Raphaël Almar.
Oui, merci à vous. Bonne journée, au revoir.
Et merci à vous, Caroline Fillette. Ça vous fait réagir, Stéphanie Schuller.
Oui, cette vidéo me rappelle d'un village de pêcheurs. Malheureusement, j'ai oublié son nom, au Mexique, dont on a parlé récemment chez nous à l'antenne, avec un témoignage assez poignant aussi d'une dame qui était originaire de ce village de pêcheurs. 150 personnes qui vivaient depuis des décennies, voire des siècles, de la pêche. Et en raison de la montée du niveau de la mer, c'était carrément tout le village qui a été sous l'eau et qui a dû être déplacé. Donc les autorités se sont dépêchées pour déplacer carrément l'ensemble du village. En revanche, dans une localité assez éloignée de la mer, et là la question se pose de l'accompagnement social de ces personnes qui étaient du coup non seulement coupées d'un lieu culturel pour eux très important, mais aussi de...
D'un lieu de vie, un lieu économique.
Et économique, en fait, et qui étaient non seulement déplacées donc en fait dans un lieu qui leur a été inconnu, mais surtout sans moyen de subsistance.
RFI.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsa ce ca sunt ceva.
Se pa du vent.
Ande ne tanki fami wonde amdari wa walata de hore lady dis.
Добрый день, вы слушаете подкасты международного французского радио RFI.
Xenia Zornoclay, vous souhaitez revenir, vous, sur l'impact environnemental de la guerre en Ukraine. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre de parler d'environnement dans un conflit qui fait autant de victimes, mais selon des experts, depuis le début de l'invasion russe, eh bien, les destructions de l'environnement sont une tragédie d'une ampleur rare qui affectera plusieurs générations d'Ukrainiens. C'était important de le rappeler aussi.
Oui, tout à fait. Toute guerre a un impact négatif sur l'environnement. Et en Ukraine, on parle de l'écocide. L'écocide qui est défini par le code pénal, il s'agit de la destruction à grande échelle de la flore, de la faune, de l'empoisonnement de l'air et des ressources en eau, ainsi que d'autres actions susceptibles de provoquer une catastrophe environnementale. Et en Ukraine, jusqu'à présent, on a eu 15 affaires ouvertes, causées, affaires en justice, en fait, pour les actions causées par la guerre. Par exemple, il y a deux généraux russes impliqués dans le bombardement de la centrale de Kakhovka qui ont été traduits en justice. Et là, c'est une étape très nécessaire et très importante pour l'Ukraine parce que dans le futur, ce genre de décisions des tribunaux ukrainiens peuvent être utilisées dans tout ce qui est l'instruction pénale internationale et ces personnes-là peuvent être soumises sous les sanctions par d'autres États.
Et juste pour revenir sur ce barrage, il faut aussi rappeler qu'il a provoqué des inondations spectaculaires, meurtrières l'été dernier. Donc, on parle de choses vraiment graves.
Oui, c'est très grave. Après, c'est vrai que l'environnement ukrainien, après cette explosion de barrage de Kharkovka, est changé. Cette région est changée. C'est plus du tout la même région. On pensait qu'il y aura un espèce de désert à la place de ce barrage. Mais le moment d'explosion est tombé très juste du fait qu'en fait, il avait des graines de quelque chose qui ont été portées par le vent. Et du coup, maintenant, c'est vert. Et c'est une plaine historiquement connue en Ukraine. Donc maintenant, on pense que ça va rester vert. Il y a des animaux qui sont revenus dans ces endroits-là. Donc peut-être la nature va reprendre sur ces territoires inondés.
Bah écoute, ce serait plutôt une bonne chose parce que la nature, elle a été quand même très touchée. Je crois près de 30% des zones forestières ukrainiennes et environ 20% des parcs naturels nationaux qui ont été affectés par la guerre.
Oui, je pense que c'est encore difficile de compter les dégâts.
Et puis ça continue surtout. Hein,
ça continue. Et surtout maintenant, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans l'est du pays, dans les régions de Soum, dans les régions de Kharkiv, on a plus en plus de déchets de guerre. Ça, c'est un aspect... c'est vraiment une question très, très importante pour l'Ukraine. Les déchets de guerre, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce que l'Ukraine va faire après la victoire, après la fin de la guerre? On se pose des questions, mais l'Ukraine cherche les solutions dès maintenant. Dès maintenant, on organise beaucoup de rencontres sur le thème de reconstruction de l'Ukraine. On cherche des solutions pour le futur, par exemple au niveau de reconstruction des bâtiments. Je peux donner comme exemple la petite ville de Gostomel à côté de Kyiv. C'est une ville militaire qui était détruite au début de la guerre en février 2022. C'est une ville qui était choisie par une société française qui a décidé de reconstruire la ville en recyclant les déchets de guerre. Ils sont en train de construire les tours avec 450 appartements. Et du coup, sur 20 000 tonnes de déchets de guerre, ils n'ont pas pu utiliser que 200. Donc en fait, l'Ukraine va utiliser cette expérience, cette ville idéale, ce projet idéal pour reconstruire d'autres villes dans le futur avec les normes, avec les standards plus écologiques, plus européens en fait. Donc ça, je pense que ça c'est une manière de voir cette catastrophe ou toutes ces catastrophes d'une façon un petit peu positive pour le futur. Bien sûr, les dégâts sont énormes. Et si on parle, par exemple, de mines, de minage de champs, l'Ukraine aurait besoin...
C'est 30% du territoire, un peu plus, c'est ça?
C'est un tiers.
C'est toujours difficile de donner des chiffres précis, mais
oui,
voilà.
Oui, c'est à peu près un tiers. Après, selon les experts, il faudra près de 747 ans pour déminer tout le territoire en prenant en compte le territoire temporellement occupé. Et en fait, c'est 700 ans, presque 800 ans, mais ça, c'est avec les moyens qu'on a aujourd'hui. L'Ukraine espère de développer d'autres moyens de déminage, par exemple avec les drones ou trouver d'autres solutions techniques pour que ça soit quelque chose qui soit plus rapide. Parce que c'est vrai que les champs minés, ça pose des problèmes alimentaires pour l'Ukraine, pour l'agriculture, mais aussi au niveau mondial avec dispositifs alimentaires que l'Ukraine exporte dans le monde. Et après, il y a 6 millions de civils qui habitent ces régions-là, donc ils sont en danger. Donc c'est une catastrophe. Et c'est vrai que l'Ukraine, maintenant, c'est un pays le plus miné du monde, après l'Afghanistan, après la Syrie.
Ouais. Et dans les chiffres qui sont tristes à annoncer, voilà, la guerre est responsable d'environ 150 millions de tonnes d'émissions d'équivalent CO2. C'est ce qu'émet la Belgique en une année. C'est les derniers chiffres que j'ai eus en préparant cette intervention. Vous avez encore un petit mot à rajouter ?
Oui, j'aimerais aussi parler du fait que les Ukrainiens craignent que la situation s'aggrave. Et c'est très important de réagir, d'agir maintenant, parce que tout ce qui est fleurs, faune, les ressources naturelles, ça n'appartient pas qu'à l'Ukraine, ça fait partie de nos biens communs. L'environnement n'a pas de frontières. Voilà.
Et l'environnement n'a pas de frontières, exactement.
Alors ça veut dire que sur...
RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Stéphanie Schuller, on va parler d'un sujet un peu plus léger avec vous, les Jeux Olympiques de Paris. Le gouvernement français veut faire de ces Jeux les plus verts jamais organisés.
Oui,
est-ce
alors,
que c'est bien parti?
La barre, en tout cas, elle a été vraiment placée très haute parce que les organisateurs de Paris 2024 Alors, on promit de diviser par deux l'empreinte carbone par rapport à la moyenne des éditions précédentes à Londres et à Rio. Alors, on ne prend pas là, en fait, on compte les JO de Tokyo pour une raison évidente, puisqu'elles se sont déroulées pendant la pandémie de Covid, et donc on ne peut pas vraiment prendre ça comme référence, n'est-ce pas ? Mais pour Paris, ça veut dire quoi ? Cette année, ça veut dire de ne pas dépasser les 1,58 millions de tonnes d'équivalent de CO2, ce qui est toujours beaucoup quand même.
C'est beaucoup, mais concrètement, c'est quoi les gros postes d'émissions de gaz à effet de serre pendant un énorme événement comme les JO ?
Alors, il y en a, on va dire, trois gros blocs. Il y a tout d'abord les transports, bien évidemment. On attend quand même 15 000 athlètes, mais aussi 15 millions de visiteurs qui ne viennent pas tous de France, hein, à vélo ou en train, comme moi qui suis partie dans les Balkans. J'y reviens, mais il y en a beaucoup qui vont
et
venir.
Et là, qui viennent en avion, de très loin.
En avion, exactement, et de très loin. Donc ça, c'est le premier poste, les transports. Ensuite, le bâti, on va en parler dans un instant, c'est-à-dire les constructions qui sont nécessaires pour le déroulement de ces Jeux Olympiques. Et puis, troisième poste, on dit, c'est tout ce qui concerne la logistique durant l'événement. Je vous donne un exemple. Par exemple, les repas qui vont être servis non seulement aux athlètes, mais aussi aux visiteurs, etc. Ça va vous donner un peu une idée. Donc, on avait dit transport, bâti et la logistique. Et ces trois postes, on dit que chacun compte pour environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre.
Et vous, vous êtes intéressé pour notre service au bâti, justement, ouais. À tous ces nouveaux bâtiments qui ont été créés.
Alors, le point fort des JO de Paris, il faut dire, c'est que la ville a la chance de pouvoir utiliser en grande partie des infrastructures qui existent déjà, comme le Stade de France par exemple, mais il y en a plein d'autres, ou alors des structures éphémères. Si vous passez en ce moment par exemple sur la place de la Concorde, en plein cœur de Paris, vous verrez qu'ils sont en train de construire des énormes tribunes. Ça va donner lieu à une sorte de parc urbain, ils appellent ça, et on va avoir là des compétitions.
Le roller, des choses de skate,
exactement, le BMX, le breaking aussi, des nouvelles disciplines olympiques. Donc pour résumer, 95% des bâtis nécessaires pour les JO à Paris existent déjà ou seront ce genre de structure éphémère.
Et le 5% restant ?
Eh bien là, on rentre un peu dans le dur et là j'arrive à vrai dire à mon sujet. C'était un peu longue, mais c'est pour vous donner un peu un cadre, Igor. C'est important le cadre.
Passons l'introduction, voilà. On va dans le but.
On a eu à Paris trois grandes constructions. Donc il y a la piscine olympique, l'aréna pour les disciplines en intérieur et puis évidemment le village olympique et paralympique qui doit accueillir déjà 15 000 athlètes du monde entier. Donc là, il fallait construire, mais pas n'importe comment, bas carbone. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, je me suis dit, construire bas carbone ? Et j'ai posé la question à Henri Specht. Eh bien, c'est le directeur du projet du village olympique à la Solideo, la société en charge des ouvrages olympiques Paris 2024.
Alors, ça veut dire que sur le village olympique, par exemple, on a divisé par deux la facture carbone des bâtiments et des espaces publics par rapport à une construction courante en 2019. Concrètement, on a utilisé beaucoup de bois pour faire la structure des immeubles, pas loin de 15 000 m3, où on a utilisé du béton bas carbone. C'est un matériau dans lequel on remplace le liant classique par un autre liant qui est beaucoup moins énergivore. Ça sèche moins vite, mais cette problématique liée au séchage a été intégrée dans la conduite du chantier sur le village olympique. C'est vraiment de l'anticipation et de la planification et de la méthodologie qui, en fait, ont été la clé du succès sur la conduite du chantier du village.
Donc, vous voyez bien qu'en fait, ces nouveaux matériaux nécessitent parfois une sorte d'adaptation. Donc, il y a la question du choix des matériaux pour baisser le bilan carbone de ces constructions, mais aussi d'autres exemples. Il y a, par exemple, les sièges à l'intérieur de l'aréna qui ont été fabriqués en plastique recyclé, il y a plein d'exemples comme ça. Mais aussi, c'est une question d'organisation des chantiers. Je vous donne un exemple pour le village olympique, par exemple. Les barges ont été utilisées sur la Seine, c'est-à-dire des bateaux qui ont transporté des matériaux, enlevé aussi en fait, ce qui n'était plus nécessaire sur ce site. Et on a évité, par ce transport fluvial, 25 000 camions, ce qui est quand même important.
C'est pas mal.
Donc, il y avait quand même une sorte de volonté d'organiser les chantiers aussi de façon à être plus efficace.
Du coup, est-ce que c'est du pur affichage ou est-ce qu'on peut vraiment dire que le pari bas carbone a été remporté par la ville ?
Alors, j'ai vraiment essayé de trouver une réponse à cette question parce que moi-même, je ne suis pas une experte. Donc, j'ai contacté tout un tas d'organisations écologiques et il faut dire qu'il y a évidemment des choses à redire, et vous allez l'entendre là, sur, de façon générale, organiser des JO au moment de l'urgence climatique. Mais l'ensemble des gens que j'ai interrogés étaient quand même plutôt positifs sur le bâti. Donc bas carbone pour ces JO. Je vous propose d'écouter Guillaume Kerlero de Rosbeau, qui est directeur des études sur la transition écologique de l'Institut Rousseau. Et avec l'ONG Carbon Market Watch, ils ont sorti la semaine dernière un rapport qui était quand même plutôt critique sur de nombreux points, mais pas sur le bâti.
L'ambition de baisser les émissions liées aux Jeux Olympiques est une bonne ambition. Le plan d'action qui est mis en place aujourd'hui par Paris 2024, il est assez complet sur à peu près 30% des émissions, notamment le plan d'action sur tout ce qui est bâtiment et tout ce qui est alimentation est à saluer. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et le gros éléphant dans la pièce, comme on dit, c'est la question notamment des transports et notamment le transport international, puisque vous avez un regroupement de dizaines de milliers de personnes qui viennent en avion pour une bonne partie d'entre eux des quatre coins du monde pour assister aux épreuves. Et ça, en fait, c'est un impensé de la stratégie de décarbonation des Jeux actuels. Et donc, c'est là où il faut aller beaucoup plus loin.
Alors, ça veut dire quoi, Stéphanie? Que face à l'urgence climatique, finalement, il ne faut pas organiser de Jeux Olympiques, tout simplement? C'est ça que nous dit ce monsieur?
En fait, la question ne se pose pas vraiment, en fait, de ne plus organiser des Jeux Olympiques, mais en revanche, il y a...
Enfin, ou de grands événements culturels ou sportifs.
La question est peut-être, est-ce qu'on ne peut pas organiser les Jeux Olympiques autrement? Et il y a des réflexions en cours, pas mal ailleurs dans le monde, d'ailleurs, y compris avec le comité olympique qui a été saisi sur cette question. Je vous donne quelques pistes. On pourrait peut-être imaginer d'organiser des Jeux Olympiques, mais pas dans un seul pays, mais dans plein de pays en même temps. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, la natation à Paris, les disciplines concernant le vélo au Burkina Faso, le boxe à Tokyo, etc. Pourquoi, en fait? Parce que on n'aura pas, du coup, la nécessité de déplacer tous les athlètes dans une ville et tout le public dans une ville, ce qui réduira considérablement justement les transports et donc les émissions de gaz à effet de serre. Et une autre solution pourrait être d'organiser des fan zones un peu dans tous les pays de façon renouvelée. Parce que la question, évidemment, en fait, on voudrait permettre aux fans de sport de vibrer avec ces JO qui sont quand même, malgré tout, pour beaucoup de gens, un moment magique. Aux athlètes, quand même, de participer à des compétitions, mais sans avoir à construire les infrastructures pour autant de personnes, etc. Donc, ça pourrait être éventuellement une solution.
Audrey Garrick, c'est quelque chose que vous vous posez comme question à la rédaction du Monde. Est-ce qu'il faut organiser des grands événements internationaux, alors sportifs ou culturels, dans ce monde, avec le réchauffement climatique qui est là, ou ça a encore du sens? Comment...
Oui, bien sûr, on prépare aussi, on fait aussi beaucoup d'articles sur ce sujet, sur l'empreinte carbone de tels événements et aussi, oui, comment ça pourrait se passer, par exemple, s'il y avait une canicule ou une succession d'autres événements extrêmes, ça pourrait être aussi des très fortes pluies pendant les JO, et comment gérer ça et d'avoir 40 degrés comme on a pu l'avoir il y a 2 ans ou l'an dernier pour les athlètes et pour tout le public, ce serait un très gros enjeu au-delà de l'empreinte carbone aussi.
Des enjeux qui posent beaucoup de questions. Allez, on va marquer une dernière pause en musique avec les Gladiators. Hello Carole.
So much tears on my chiller with no relation.
Hello Carol des Gladiators sur RFI aujourd'hui. C'est la version club de l'émission avec Audrey Garrigue du journal Le Monde, Xenia Zornocle, Stéphanie Schuller et Pauline Glaise de RFI. Pauline Glaise, c'est à nous. Le Parlement européen vient de valider le retrait de l'Union européenne du traité sur la charte de l'énergie. Alors, de quoi s'agit-il, Pauline ? L'intitulé n'est pas complètement clair.
Oui, alors je vais faire comme Stéphanie, je vais poser le cadre. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le plus connu des accords internationaux. Donc cet accord, il a été conclu peu après la chute de l'URSS. Son objectif, c'était de faciliter les relations énergétiques. En gros, c'est une garantie pour les entreprises du secteur énergétique. En cas de revirement de politique d'un État, leurs activités, s'ils estiment que leurs activités sont menacées, ou... voilà, si leurs intérêts, si ça porte préjudice à leurs intérêts, ils pouvaient demander réparation. Enfin, ils peuvent toujours, d'ailleurs. Et donc l'objectif, c'était de favoriser les échanges et d'encourager les investissements, puisqu'il y a des garanties. Normalement, les entreprises sont moins frileuses pour y aller.
Et du coup, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, cette décision de l'Union européenne ?
Eh bien, plutôt oui. D'ailleurs, ce retrait était réclamé depuis des années par des organisations de protection de l'environnement, parce qu'en fait, ce traité, il a été conçu donc pour sécuriser les investissements. Et résultat, ça permet aux entreprises de lancer des procédures contre les pays où ils ont ces activités. Et ils le font devant des tribunaux d'arbitrage, pas devant la justice de chaque État. Et ces tribunaux, ils étudient en fait si oui ou non le traité est respecté. Et dans ce traité sur la charte de l'énergie, la question du réchauffement climatique ne figure pas. Les décisions ne Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ça peut aller à l'encontre de la transition énergétique.
Et oui, parce qu'on a des exemples, Pauline, quand l'Italie est condamnée en 2022 à payer 200 millions d'euros à une compagnie pétrolière pour avoir refusé du forage offshore, là, on comprend que ça va pas dans le bon sens.
Bah, effectivement, puis il y a eu il y a eu plein de cas, plein d'attaques. Parfois, les entreprises renoncent. Il y a un énergéticien allemand qui avait réclamé jusqu'à 1,5 milliard aux Pays-Bas pour compenser les pertes liées à une politique anti-charbon pour arrêter les centrales à charbon. Donc la facture peut être effectivement très salée pour les États et ça peut les dissuader d'avoir des politiques beaucoup plus ambitieuses. D'ailleurs, parfois...
Alors pour comprendre, il reste très peu de temps, Pauline, pour comprendre. Vous disiez que c'était plutôt positif, donc on a bien compris qu'il y a du bien, mais il y a un mais du coup.
Oui, il y a un mais. Alors déjà, il y a un délai, donc une fois que ça aura fini vraiment tout le parcours législatif en Europe, il faudra un an pour vraiment sortir de ce traité. Certains pays peuvent rester membres malgré tout. Et puis surtout, il y a une clause de survie de 20 ans. Donc les investissements qui sont déjà actés sont protégés par ce traité pendant encore 20 ans.
Merci Pauline Glaise, je vous ai encore coupé, je suis navré, mais je serai mieux la prochaine fois, Pauline, rassurez-vous. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, merci à tous d'être passés dans ce club RFI. Merci à Caroline Fillette, Raphaël Plouxva et François Porcheron. Demain, émission spéciale en public enregistrée à Abidjan au début du mois. On se donne rendez-vous demain à suivre un nouveau journal sur la Radio du Monde.